En séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je vais ouvrir cette séance en sachant que nous serons tenus par nos horaires. Je vais donc commencer par vous demander l'approbation du compte-rendu de notre séance du 12 février. Donc, y a-t-il des observations à ce sujet ? S'il n'y en a pas, je considérerai que ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Aux honneurs de la séance et qui accompagne notre communicant Jean-Marie Colombani, je voudrais saluer Madame Colombani, Monsieur Jérôme Jaffré, qui interviendra lui-même le 15 octobre prochain en séance sur les sondages, la République des sondages, et Monsieur Éric Leboucher, qui est aussi un de nos confrères anciens. S'il y avait des dépôts d'ouvrages, et en raison de la remarque que je viens de faire sur nos horaires, je souhaiterais que nos confrères puissent décaler à la semaine prochaine les dépôts d'ouvrages en question, peut-être. Bon. Voilà. Donc, je vais donner la parole à notre secrétaire perpétuel pour la lecture de la correspondance.
Merci, Monsieur le Président. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord, on demandait à être excusé Renaud Denoy de Saint-Marc, Bertrand Collomb, Jean-David Lévy, Pierre Brunel, qui va mieux, qui est en convalescence, mais qui va mieux après une très mauvaise semaine la semaine dernière, Thierry de Montbrial et Jean Cluzel, Jacques Boré, André Damien, Christian Poncelet, Prosper Veil et le cardinal Etchegaray. Trois petites annonces importantes. La première, c'est que nous avons enfin une secrétaire, ou nous avions une secrétaire générale en la personne de Véronique Duchaud-Fuseli, et nous avons maintenant une secrétaire de notre académie, qui est Laurence Fauss, qui est derrière le grand rabbin, et qui nous a rejoint il y a trois jours. Et voilà. Et donc, son email, si vous voulez lui écrire, c'est très simple, fausse@asmp.fr. Et en tout cas, elle est à votre disposition, et je trouve qu'elle a... Elle arrive dans des circonstances compliquées parce qu'il y a eu pas mal de désorganisations ces derniers mois, mais compte tenu des fonctions précédentes qu'elle a occupées à Matignon, je crois qu'elle a toutes les capacités de venir rapidement à bout des dossiers qui sont en cours et de nous aider avec le sourire et efficacité. Deux autres petites annonces. La première, c'est qu'il y aura une messe en souvenir de Arnaud de Hauterive, l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, décédé récemment, à Saint-Germain-des-Prés, le 21 mars à 11h, pour ceux qui souhaiteraient y participer. Troisième annonce, il y a ce colloque du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le mercredi 14 mars prochain, de 9h30 à 17h, pour lequel vous aviez reçu une information. C'est une journée d'études intitulée « Pensée influente, la recherche française à l'étranger en sciences humaines et sociales » et qui se tient Quai d'Orsay. Donc vous avez eu un message normalement pendant les vacances. Ceux qui seraient intéressés sont priés de se manifester auprès du secrétariat de l'Académie parce qu'on a besoin de prévenir le ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Et je vais donc maintenant présenter notre communicant avant sa propre communication. Et donc, j'ai le plaisir de m'adresser à notre cher Jean-Marie Colombani. Cher Jean-Marie, et je dirais que notre longue confraternité dans notre métier va m'autoriser le tutoiement. Nous avons tous été, certes à des degrés divers, élevés à la lecture du Monde. Aimé ou pas, ton journal porte la marque du quotidien de référence. Tu en as pris la direction en pleine crise, le 27 février 1994, à l'âge qui était celui d'Hubert Beuve-Méry quand il fonda le journal au mois de décembre 1944 et c'était très précisément au retour du général de Gaulle de sa visite à Moscou. Cette direction, tu l'as assurée pendant près de 14 ans, soit autant de temps que Jacques Fauvé, qui avait suivi le même parcours que toi au service politique du journal. Tu es devenu journaliste en sortant de Sciences Po et de l'université Panthéon-Assas par un détour comme correspondant en Nouvelle-Calédonie, expérience dont tu tireras un essai de politique et de sociologie historique. Mais c'est à l'élection de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville de Paris en 1977 que tu dois ton arrivée au monde. Car il fallait suivre ce déjà ancien Premier ministre qui nourrit alors les plus hautes ambitions et qui finira, comme tu l'as écrit en titre d'un de tes livres à succès, « Résident de la République ». Puis tu couvres, comme on dit, les activités du Parti socialiste, de la droite, de la gauche et de l'Élysée, enfin. En 1983, quand tu deviens chef du service politique du journal, la gauche est aux affaires et François Mitterrand, ce monarque imaginaire, t'inspirera 4 livres durant sa présidence. Nommé rédacteur en chef du Monde en 1990, et ceci en compétition avec notre ami Daniel Vernet, qui vient de nous quitter, tu vas vivre les années de crise du second septennat, crise de la politique, de la gauche, de la cohabitation, en même temps que celle qui secoue aussi la presse quotidienne. Les années 80 avaient été fastes pour cette presse quotidienne. Elles avaient été saluées par les gros tirages, l'argent facile et les dépenses, suivi comme toujours par le gonflement de la dette et des déficits. Le monde était géré comme la France. Au journal, la situation devient critique et lorsque les rédacteurs, les cadres, les actionnaires se tournent vers toi au début de 1994, tu leur dis « Nous devons refaire le monde. Nous avons été la locomotive de la presse française. Nous devons donner le signal du redressement. Tu définis la nouvelle formule du journal, le retour aux fondamentaux, et le 9 février 1995, alors que François Mitterrand achève son mandat, la nouvelle formule du Monde fait faire un bond à sa diffusion. Paris gagné. Le bénéfice, dis-tu, est la seule condition de l'indépendance. Vieille vérité, si peu respectée dans notre industrie. Suivent 12 années exaltantes. On se souvient de ton éditorial du 13 septembre 2001, « Nous sommes tous américains », mais des années aussi éprouvantes pour le directeur que tu es. Après une nouvelle révolution rédactionnelle, les fièvres et les états d'âme dont les sociétés de rédacteurs ont le secret finissent par obtenir ton départ. Tu rebondis aussitôt en attaquant Internet, ce nouveau support qui fait vaciller la presse papier en créant pour un public jeune le titre Slate.fr que tu diriges avec quelques belles plumes rencontrées au cours de ta carrière. Car il n'y avait pas que le monde dans la vie, dans ta vie. Il y eut aussi la télévision, l'heure de vérité, question à domicile, un très beau documentaire sur le théâtre du pouvoir dont le héros était Valéry Giscard d'Estaing, et puis la radio, tes chroniques à RTL, à France Inter, la rumeur du monde sur France Culture que tu animes avec notre confrère Jean-Claude Casanova. Tu as même rédigé, à la demande de Nicolas Sarkozy, que tu appelles un Américain à Paris dans un autre livre portrait, un rapport sur l'adoption dans lequel tu auras mis beaucoup de toi dans tes réflexions sur la famille et la société. Mais pour conclure, comment ne pas en revenir au livre et à l'un de tes tout premiers en particulier, ce portrait d'un président qui était François Mitterrand. On va voir, cruelle ironie, combien rien n'a changé dans la conduite politique. Nous sommes en 1985. Voici ce que tu écris en parlant du réalisme de François Mitterrand. Sujet, les immigrés. D'un côté, le président nous dit, leur dit, la main sur le cœur, combien il les aime et combien il aimerait qu'ils puissent être mieux intégrés à la communauté nationale au moyen, par exemple, d'un bulletin de vote pour les élections locales. De l'autre côté, le président nous explique que l'opinion ne permettrait pas une telle réforme et se refuse à exposer le gouvernement à une incompréhension générale. Il n'a donc rien fait, éternité de la politique. Cher Jean-Marie, en te remerciant très vivement d'avoir accepté notre invitation, il est temps que je te cède la parole pour que tu nous expliques le monde.
Merci, je serai sûrement plus limité que ce que tu viens d'indiquer. Merci en tout cas de ces bonnes paroles. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Mesdames, Messieurs, le monde prescripteur d'opinion, l'intitulé du thème que, cher François, vous m'avez soumis, sonne à la fois comme un idéal et un reproche. L'idéal, un idéal perdu peut-être, car ce qui est encore prescripteur aujourd'hui dans une presse qui est elle aussi soumise au règne sans partage des réseaux mondiaux et sociaux. Pourtant, il faut avoir l'esprit que tous les grands mouvements de nos sociétés, tous les grands mouvements sociaux, les grandes évolutions, ont toujours été accompagnés par une presse capable de prescription, par une presse prescriptrice, que ce soit la décolonisation, la libération de la femme, le combat pour l'égalité, l'avènement de l'alternance et bien d'autres. Donc, d'une certaine façon, c'est utile. Mais on peut aussi comprendre cet intitulé comme un reproche. Et si le monde avait été lui aussi atteint par un mal bien français, à savoir être une presse d'opinion, opinion au singulier bien sûr, aux dépens de ce qui devrait être l'alpha et l'oméga du journalisme, à savoir le respect des faits, que dis-je, la religion des faits. Si bien que l'on a pris l'habitude en France de figurer le journaliste soit comme un porteur de casaque, c'est le plus souvent la vision et l'aspiration des politiques, soit comme le point ultime de la corruption moderne, d'autant qu'aucun titre de presse nationale aujourd'hui n'échappe au contrôle d'un industriel milliardaire. C'est la vision de l'école Bourdieu. La réalité est bien sûr beaucoup plus complexe. Elle est celle d'un artisanat. Ce sont des tensions, des contradictions permanentes qui tiennent ensemble, pourvu que l'on ait l'obsession de se conformer à quelques grands principes professionnels qui commande la hiérarchisation de l'information, sa mise en perspective, sa contextualisation, sa vérification. Le monde, traiter du monde comme prescripteur d'opinion, c'est d'abord se remettre en mémoire le monde au fait de son influence, celle qu'avait bâtie et qu'avait léguée son fondateur, Hubert Boeuf-Méry. Et de ce point de vue-là, on peut regarder l'histoire du journal par grandes périodes, en distinguant celles pendant lesquelles, par sa puissance et son influence, il a dérangé, et celle, au contraire, où il a paru décliné. Première période de 1954 à 1974, qui va de l'installation du journal comme journal de référence jusqu'au dialogue au sommet entretenu par Hubert Boeuf-Méry et le général de Gaulle, Hubert Boeuf-Méry, dont je dis souvent qu'il était un de Gaulle de papier. Mais c'était évidemment le fait de l'aspiration du fondateur du journal. De 1974 à 1994, c'est une période plus contrastée avec une phase d'ascension qui culmine en 1979, suivie d'une phase de déclin marquée par la multiplication des crises. Ainsi, la quasi-faillite de 1984 ou bien la faillite, la vraie, de 1994, crise liée au déclin éditorial du journal. Car il ne faut jamais oublier que si le succès éditorial ne garantit pas le succès économique, donc l'indépendance, le déclin éditorial est, lui, le plus sur chemin vers la faillite. Troisième grande période, de 1994 à 2007, la relance, la réorganisation, la construction d'un groupe, condition à mes yeux de la stabilité économique, donc de l'indépendance, qui vont de pair avec de nouveaux sommets d'influence ou d'influence supposée. Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, puisque j'étais aux commandes de cette période, comment nous avions bien pu réussir à regagner tant d'influence. Sinon par un travail préalable, dont c'était l'objectif, de complète rénovation, une révision de fond en comble, bientôt concrétisée par une nouvelle formule née en 1995, destinée à refaire un quotidien complet tous les jours, cherchant dans chaque secteur à trouver le meilleur spécialiste de façon à être le plus et le mieux informé. Travail méthodique, accompagné par l'écriture de dogmes professionnels que la rédaction a été priée de suivre et précédé par un lourd réinvestissement dans la force éditoriale. L'envers de ce qui m'était recommandé en période de crise, ce qui était souhaité, c'était une stratégie d'attrition, laquelle n'aurait eu d'autre effet que d'aggraver la crise. Bref, une politique de relance, à l'envers de la plupart des idées reçues, qui a permis le retournement. On peut superposer à cette lecture chronologique celle des ambitions des directeurs qui ont compté. Beuve, préoccupé de juger au nom de la morale. Fauvet, qui se voulait aux commandes de la bataille pour l'alternance. Fontaine, qui voulait rétablir le primat de l'international. Et moi-même, qui était animé par l'ambition de rendre au journal son rôle de grand interpellateur du pouvoir. Nous voici donc bien dans le vif du sujet, quelle que soit l'approche choisie, par grande phase ou bien en suivant le fil des mandats des directeurs successifs, un constat s'impose à chaque période faste, à chaque fois que le monde a exercé une forte capacité prescriptrice, il a aussitôt fait l'objet d'une offensive en règle, avec à chaque fois le même objectif, affaiblir un journal devenu trop puissant. Je rappellerai donc qu'Hubert Beuve-Méry, outre des campagnes de presse, le dénonçant comme agent soviétique, parce qu'il avait été un temps tenté par le neutralisme, se vit opposer vainement et très brièvement à un pâle concurrent qui s'appelait le Temps de Paris. Jacques Fauvet, en plus d'un attentat à son domicile, vit naître et s'éteindre presque aussitôt un quotidien, J'informe, avec l'argent du patronat. Joseph Fontanet, qui en était le patron, confessa d'ailleurs un jour que cet argent n'était jamais arrivé à hauteur des promesses faites. C'est dans cette tradition quasi pavlovienne, respectée par tous ceux que le monde dérangeait, que j'inscris l'épisode le plus récent, c'est-à-dire la publication en 2003 chez Fayard d'un livre signé de messieurs Péan et Cohen, à qui l'on attribue encore aujourd'hui le déclenchement d'une succession d'épisodes qui a conduit à la vente du journal. Et notamment aussi à mon départ. J'ai été élu, comme dirait quelqu'un, à la tête d'un journal en faillite en 1994, avec une obsession donc, rendre au journal sa première place, son rôle de référent. Nous sortions d'une période où les crises internes avaient succédé aux crises, accompagnées par un fort déclin du lectorat, car nous avions été jugés trop proches du pouvoir de l'époque, celui de François Mitterrand, et nous l'étions à coup sûr. Il fallait donc rompre avec cette image, d'où la remise en ordre, l'opération de relance que j'avais engagée, sur laquelle bien sûr je ne vais pas m'étendre, mais dont le souvenir me fait parfois sourire parce qu'à l'époque, je battais les estrades et les studios de télévision en vantant les mérites du nouveau monde que j'opposais aux défauts de l'ancien monde. Je peux donc témoigner ici que c'était un bon slogan. Suivez mon regard. Je m'étais fixé un engagement dans la suite des engagements historiques du journal en faveur d'une meilleure démocratie, à savoir accompagner le combat pour son indépendance qu'avait déclenché la magistrature. Les juges relevaient la tête. Nous nous devions d'accompagner le mouvement au nom d'un meilleur équilibre des pouvoirs, parce qu'il nous paraissait, et il me paraît toujours, que la démocratie ne peut pas se réduire au seul exercice du suffrage universel, comme le prétendent aujourd'hui un certain nombre de leaders dans l'Est de l'Europe, mais qu'elle ne va pas sans équilibre des pouvoirs, sans corps intermédiaires, sans contre-pouvoirs. C'est donc pour servir cette cause, finalement, qu'a existé le couple du juge et du journaliste. Et c'est ce qui a permis le développement de ce que l'on a appelé les affaires, qui par ailleurs rejoignait, soit dit en passant, le premier commandement dans la vie de tout journal, quand un jour donné, vous êtes le premier sur une information, à condition qu'elle soit vérifiée, ce jour-là, vous êtes le meilleur. Il s'en est donc suivi l'offensive du Péan Cohen. La seule motivation de cette opération combinée a été livrée par l'éditeur Claude Durand, je le cite, « donner un coup d'arrêt au pouvoir que s'arrogent les journalistes ». Voilà bien l'essentiel, en effet. Avec ce paradoxe que l'opération avait été en quelque sorte sponsorisée par nos amis et confrères de l'hebdomadaire L'Express, car c'est la publication d'un condensé du livre dans L'Express qui a créé le choc dans l'opinion aux dépens du journal. C'est donc L'Express, un des rivaux du monde en matière de prescription, qui s'est placé au premier rang alors qu'il s'agissait pourtant de, je recite, « donner un coup d'arrêt au pouvoir des journalistes ». Les auteurs du livre, l'éditeur, les responsables de L'Express de l'époque avaient donc jugé plus important de stopper l'avancée du monde, de freiner la construction de son groupe, plutôt que de s'intéresser aux géants qui peuplaient et peuplent encore, davantage encore aujourd'hui, le paysage médiatique. Mais les auteurs n'étaient pas en suspension dans la haute atmosphère. Ils faisaient partie d'un contexte politique dont il faut rappeler quelques éléments, et d'abord la relation du monde avec François Mitterrand. Avec le monde, ce dernier avait contracté de bien mauvaises habitudes. C'est peu de dire que le journal avait accompagné la montée puis l'avènement de l'Union de la gauche. Ce soutien s'est traduit notamment par le traitement de l'affaire des diamants, épisode pendant lequel le monde avait donné un large écho aux articles du Canard enchaîné, et qui a peut-être d'ailleurs contribué à la défaite de Giscard en 1981. Et pour ce qui me concerne, je venais d'être embauché dans un service dans lequel il était très difficile de critiquer le programme commun. Tout au long de l'été 1977, nous étions priés au moment de ces fameuses discussions sur l'actualisation du programme commun, de nous tenir bien à gauche. En vérité, la véritable aspiration des dirigeants du monde d'alors et de son encadrement était de voir venir l'alternance, après un quart de siècle de domination sans partage de la droite. Et les années qui précèdent mai 81 ont été parmi les plus belles du règne de Jacques Fauvet. La diffusion avait atteint un sommet historique. Avant de plonger très vite, de façon spectaculaire, une part de nos lecteurs reprochant au journal sa trop grande indulgence vis-à-vis du pouvoir. Le Monde, au fil des années, devait rapidement corriger son positionnement. Cela fut fait essentiellement grâce au traitement de l'affaire Greenpeace, qui comportait en lui-même un seul message. Le journal fait et fera prévaloir l'information sur tout positionnement partisan. Les rapports se dégradèrent ensuite davantage avec le chef de l'État au fil des polémiques sur sa santé. Mais le facteur déclenchant, en fait, du Péan Cohen, missile destiné à atteindre le journal sous sa ligne de flottaison, ce fut la publication par Pierre Péan d'une jeunesse française, concoctée avec François Mitterrand, lequel souhaitait, avant de quitter le pouvoir et avant de nous laisser en compagnie des forces de l'esprit, que soient dévoilées quelques zones d'ombre, plutôt des zones grises, tenant à son passé maréchaliste. Il s'agissait de révéler, mais de façon contrôlée, sans démolir. Or, le monde va faire de cette jeunesse française un objet de scandale, de découverte d'un passé qui, pour la jeune génération des journalistes, ne passait pas. Car il y a eu à ce moment-là un véritable conflit de génération. La première génération du monde, celle qui a porté le journal jusqu'à ses premiers sommets, elle a adhéré à François Mitterrand en connaissance de cause, en connaissance de son passé vichiste. Peut-être parce que la matrice du monde a aussi été Vichy, puis la Résistance. Hubert Beuve-Méry lui-même avait quitté le journal Le Temps, qui était le journal du comité des forges, du patronat de l'époque, en 1938 pour dénoncer les accords de Munich. Puis vint en 1940 l'école du Riage, avant que Hubert Beuve-Méry ne conduise tout son monde vers la Résistance. Cette lecture-là, l'indignation exprimée par le journal au récit de la jeunesse de François Mitterrand, influencera les autres médias. Donc la vengeance. Ainsi s'expliquent les pages consacrées dans le Péan Cohen à des reconstructions d'histoires de famille qui étaient là pour montrer que peut-être il y avait eu au moins aussi choquant que la jeunesse du président, c'est-à-dire la jeunesse de nos pères. Et nos histoires personnelles, la mienne et celle du directeur de la rédaction, Edoui Plenel, c'était bien à leurs yeux la preuve que nous étions l'anti-France. L'autre procès politique, celui-là, où nous étions pour le coup accusés de trahir l'ancrage à gauche du monde, fut l'accusation de baladurisme lors de l'élection présidentielle de 1995. J'étais moi-même le premier coupable, ayant objectivement préféré Balladur à Chirac. J'avais ensuite accueilli le nouveau président quelques semaines après sa prise de fonction par un éditorial intitulé, nous sommes en juin 1995, « Le contentement de peu ». Mais la pièce à conviction était un article analysant l'état de l'opinion à quelques encablures du scrutin et titré, ou plutôt mal titré par nos soins, de façon telle que l'on pouvait croire l'élection déjà jouée. Jérôme Jaffré, ici présent, auteur de l'article, mais non du titre, autorité lui-même incontestable, en fut la victime collatérale. Tout cela nous donna, pendant le mandat de Jacques Chirac, de sévères explications, comme à son accoutumée, au téléphone, car il arrivait au Jacques Chirac d'alors de parler très bien le Wauquiez. Officiellement, après l'épisode d'une jeunesse française, il y eut une sanction, et quelle sanction ! L'Élysée décida de se désabonner, Hubert Védrine dénonçant alors les hyènes à l'affût. En fait, l'abonnement passa de 110 exemplaires à 20 exemplaires. Cette sanction, très symbolique, montre en même temps que le monde relancé était redevenu pleinement indépendant, c'est-à-dire plus difficile à atteindre. Et c'était pour moi, en fait, une victoire, car j'étais hanté par ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, le Monde, alors dirigé par André Laurence, il sera en poste de 80 à 84, publiait chaque jour, en dernière page, un billet de Claude Sarraute. Elle était, dans cet exercice, délibérément irresponsable. Mais ce faisant, elle était aussi et surtout un argument de vente. À propos d'une visite officielle d'Omar Bongo, qui était alors président du Gabon, et la presse était alors prompte à reprocher à François Mitterrand ce genre de visite, Claude Sarraute intitule son billet « Mitolini ». Les conséquences furent très lourdes pour le journal. La crise économique qu'il traversait à l'époque faisait qu'il était très dépendant de son banquier, et son banquier à l'époque était nationalisé, lequel refusa donc de verser les salaires du mois, c'était le mois de décembre, tant que la direction serait en place, au prétexte bien sûr de mesures d'économie qu'il fallait prendre d'urgence. Celle-ci fut donc remerciée, on alla chercher André Fontaine, qui aussitôt put se prévaloir du versement des salaires. Et François Mitterrand avait dit d'André Laurence, après la publication de ce fameux billet Mitolini, « il ne tient pas sa rédaction ». L'opération fut menée conjointement par le directeur de cabinet du président et par le premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, lequel me dit aujourd'hui n'en avoir aucun souvenir, ce qui n'est pas mon cas. Il y a, quelles que soient les époques, en tout cas, une grande permanence dans les critiques et les mots utilisés, notamment celui-ci, l'anti-France. Avec une préoccupation que l'on pourrait résumer de cette façon, il n'est pas acceptable que ces maîtres en approximation, ces esprits inexacts que sont les journalistes, puissent s'inscrire en faux contre ces maîtres de vérité que sont, à leurs propres yeux, les maîtres de l'État. Mais oui, pourtant, il faut continuer de leur opposer que la démocratie se nourrit du doute, de l'inquiétude, du vacillement des dogmes, et que la presse ou qu'un journal comme Le Monde doit continuer d'offrir sa part de regard pour dire et contredire. Autre temps, même mœurs. Prenons l'année 1956. Après avoir hésité, Le Monde, celui de Boeuf-Méry, se fait de plus en plus critique de la politique du gouvernement. Politique du gouvernement Guy Mollet et des pratiques des militaires en Algérie. À la veille des élections législatives de 1956, l'éditorial du Monde est titré « Quand la faute s'ajoute au crime ». Et Hubert Boeuf-Méry de sermonner Guy Mollet, lequel répliqua par de multiples saisies, des saisies répétées, et surtout refusa au Monde l'augmentation du prix de vente. Les prix étaient alors contrôlés. Le retour au pouvoir de De Gaulle, approuvé par Boeuf-Méry, mit fin à cet épisode, dont je garde un souvenir personnel parce qu'un jour, Jacques Fauvet, qui succéda à Hubert Boeuf-Méry en 1969, me dit « Souvenez-vous toujours que les derniers censeurs que nous ayons vus au marbre du Monde étaient socialistes. » En tout cas, Hubert Bovary se montra d'autant plus vigilant avec De Gaulle qu'il l'avait soutenu dans ses projets algériens et dans ses projets constitutionnels. Mais au-delà de l'affaire algérienne, il était quand même très difficile de contenter le fondateur du Monde. Il avait fustigé, je le cite, les situations impossibles de la IVe République et, je le cite toujours, les insolubles contradictions de la Ve République. En fait, l'approche du fondateur du Monde était avant tout éthique, quasi monacale. Il idéalisait les journalistes du Monde qu'il voyait comme une sorte de chevalerie. Sa vision était celle d'un chrétien peut-être mal assuré de sa foi, mais très attaché à la morale de l'Église et à la doctrine sociale de l'Église. Voilà d'ailleurs la véritable matrice idéologique du journal depuis sa fondation, la doctrine sociale de l'Église. C'est cette vision qui avait amené en tout cas Bovary à publier le rapport de la Croix-Rouge sur la torture en Algérie, mais aussi à prendre position contre la condamnation à mort du général Jouhaud ou contre l'exécution de Bastien Thiry, le responsable de l'attentat du Petit Clamart contre De Gaulle. Il pensait qu'il était possible de vivre son métier de journaliste selon sa conscience, en prenant du champ vis-à-vis de la politique de tous les jours, d'où la distance symbolique marquée par le choix de son pseudonyme Sirius. Alors, presque rendu au terme de ce rapide survol, il reste une question. Avec trop de prescriptions, a-t-on tué la prescription ? Et aussi celle-ci, une influence telle que celle que nous avons exercée, est-elle encore possible aujourd'hui ? Si le livre « Bombe » de Péan et Cohen a eu autant d'impact, c'est qu'il a aussi capté un reproche qui était jusqu'alors diffus chez nombre de nos lecteurs et que l'on peut résumer ainsi « ils en font trop ». Alors, en quoi avons-nous eu tort, ou au contraire raison de bousculer, de déranger ? En quoi nous sommes-nous tenus à l'intérieur des limites ? En quoi avons-nous franchi trop de limites ? Il est évidemment impossible de faire ici devant vous une liste exhaustive de ce qui a été bien, de ce qui ne l'a pas été. Je me contenterai donc de quelques points de repère. Au départ, nous sommes en 1994. Mon problème est d'éviter de commettre les erreurs de jugement, qui ont été celles du journal, qui relevait non de l'observation des faits, mais de choix idéologiques. J'avais très clairement en tête les reportages sur la libération, « libération » entre guillemets, de Phnom Penh, lors de l'entrée des Khmers rouges dans la ville, ou bien encore lors de la révolution des œillets au Portugal, où l'on vit le monde faire le choix de la fraction communiste des putschistes portugais, plutôt que le choix qui eût été plus normal, en cohérence avec son histoire en tout cas, celui des sociodémocrates de Mario Soares. Je pense que pendant les presque 14 ans qui m'ont été donnés, j'ai pu éviter ce type de dérapage. Hormis peut-être la publication malencontreuse d'une enquête bien mal ficelée de l'un de nos journalistes à New York, qui pensait pouvoir subodorer dans les attentats du 11 septembre, sinon une implication, du moins une présence diffuse du Mossad. Mais enfin, il fallait bien démentir l'éditorial que j'avais moi-même écrit. Les écueils pour nous ont été, pour certains, liés au retour d'une certaine arrogance. Ainsi, nous avons demandé un jour, en une du journal, qu'il soit mis fin au Tour de France pour cause de dopage généralisé. J'entends encore les réactions suscitées par cette prise de position. Mais pour qui se prennent-ils ? Et il est vrai que ce titre était assez loufoque. Arrogance encore lorsque nous avons publié, sous la plume d'Éric Fotorino, une enquête sur, je cite, « la mémoire de l'eau » qu'un scientifique français décédé depuis prétendait avoir découvert. Cela m'a valu un procès justifié devant, dans la salle d'à côté, devant le président de l'Académie des sciences, et une longue période de purgatoire avant que nous puissions être réconciliés avec cette institution et les savants qui la composent. Écueil aussi et surtout lié à la difficulté du traitement des affaires. La seule garantie dans ce domaine est la fiabilité de nos sources. J'ai donc dû solennellement m'excuser au nom du journal pour le traitement infligé à Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, ancien président de l'ancêtre du CSA, victime, lui, d'un véritable complot, alimenté pour nous pourtant par des sources plus qu'officiel. Pour le moins, nous avions quand même manqué de vigilance et de prudence. En revanche, il m'est arrivé de refuser que le journal soit le premier à publier, par exemple, les accusations autour de la vie de la mutuelle étudiante qui ont conduit au départ du gouvernement de Dominique Strauss-Kahn après 3 ans passés à la tête du ministère des Finances. Car la source que nous avions, nous-mêmes à l'époque, était fort proche de l'Élysée. Nous étions alors en l'an 2000 et donc en cohabitation. À d'autres moments, des investigations seront lancées non plus sur les affaires, mais contre des personnes. Par exemple, contre le démographe Hervé Lebras ou contre la philosophe Blandine Criégel, injustement attaquée sur des questions qui paraissent aujourd'hui bien anecdotiques et bien mineures. Et cela commençait en effet à ressembler à des ciblages successifs de personnalités. En revanche, il est d'autres événements qui me viennent à l'esprit, plus dramatiques, et qui n'encourent pas à mes yeux ce reproche. Je veux parler du suicide de Pierre Bérégovoy, lequel avait fait l'objet de révélations touchant à l'obtention d'un prêt personnel auprès de Patrice Pelat, homme d'affaires qui était proche de François Mitterrand, lequel Mitterrand, lors des obsèques de Pierre Bérégovoy, dénonça, je le cite, « l'honneur d'un homme jeté aux chiens ». Or, je peux témoigner une nouvelle fois ici que jamais Pierre Bérégovoy n'a fait reproche au monde du traitement de cette affaire. Et je m'étais moi-même, pendant tout cet épisode, tenu au plus près de l'ancien Premier ministre. Bon, mais il y a aussi des épisodes mineurs liés à la vie politique de tous les jours. Il m'a été ainsi violemment reproché par François Bayrou, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2007, une prise de position qui lui était défavorable, sans doute formulée de façon excessive. En tout cas, à chaque meeting, François Bayrou me faisait copieusement huer et siffler. Il y a aussi, au chapitre de l'influence du monde, le fait qu'il était en son pouvoir de redorer le blason de tel ou tel ou de légitimer tel ou tel. Un exemple et un contre-exemple. L'exemple, c'est celui du grand entretien en 1998 que nous avions publié de Johnny Hallyday avec l'écrivain Daniel Rondeau, avec une annonce à la une du journal qui a été un temps fort, en fait, de l'évolution du regard de la société française sur ce phénomène national qui se voyait tout à coup intégré à la culture dans un journal qui avait tendance à réserver celle-ci à l'élite. Publication justifiée, car elle marquait en même temps une appréhension, une évolution de l'appréhension par nos contemporains du champ culturel qui est aujourd'hui infiniment plus divers, infiniment plus riche, plus varié que la vision très traditionnelle que le journal en avait jusqu'alors. Prémisse de cette évolution, très classiquement, quelques années plus tôt, nous sommes au début du septennat de François Mitterrand, de façon très attendue, Le Monde, sous la plume d'André Fermigier, fit campagne contre l'érection de la pyramide du Louvre et contre son architecte Yu Ming-pei, accusé de traiter la cour du Louvre en annexe de Disneyland. André Fermigier, héritier, selon l'expression de Marc Fumaroli, de cette tradition littéraire de la critique d'art propre à la France. Chaque mercredi, l'élite culturelle du pays attendait donc de lire Le Fermigier. Mais ce dernier fut, in fine, désavoué par le journal, qui, réflexion faite, approuva le projet de pyramide, et André Fermigier quitta Le Monde. Contre-exemple, à l'hiver 1978, la publication d'une tribune, de Robert Forisson, le pape, du moins si l'on peut dire, du négationnisme, avec comme sous-titre « Le débat sur les chambres à gaz ». Ce qui fit dire à Pierre Vidal-Naquet, je le cite, « Du jour où Robert Forisson a pu s'exprimer dans le monde, la question a cessé d'être marginale pour devenir centrale. » Ultime question, et aujourd'hui, un tel magistère est-il encore possible? À ce stade, il n'est visible nulle part dans la presse écrite. Nous vivons dans un paysage et au milieu d'une opinion devenue fortement hostile aux médias. Comme si tout le monde s'était rallié à ce concept forgé par François Mitterrand de classe politico-médiatique. À ceci près que si les médias sont collectivement détestés, voire haïs, si l'on en croit des discours récents, Chacun, en revanche, aime le média qu'il consulte, aime le média qu'il consomme. Donc chacun continue, bien sûr, d'influencer le cercle de ses lecteurs. Mais au-delà, aujourd'hui, la puissance et la gloire appartiennent aux chaînes d'information en continu, aux réseaux sociaux, lesquels fonctionnent de façon très simple et brutale. Il faut avoir chaque jour un choc d'émotion, une information qui va tout écraser. Et on va bien sûr tout faire pour cela. Avec comme conséquence le sentiment d'être bombardé, enfermé dans une vision obligée. Selon un mode de fonctionnement qui paraît répondre au commandement suivant, il est interdit d'argumenter. Avec comme autre conséquence une information chassant l'autre, qu'il n'y a plus d'hiérarchie, que tout se vaut, exit donc la hiérarchisation de l'information. Pour les journaux de presse écrite, cela laisse bien sûr un champ libre, celui de l'exploration de la complexité de nos sociétés et du monde tel qu'il va, en s'obligeant à l'approfondissement, à la contextualisation, à la hiérarchisation, à la condition aussi de continuer de faire un journal complet tous les jours. La clé dans ce domaine réside en fait dans la complémentarité avec les sites internet des journaux, qui sont eux dédiés à l'audience la plus large, quand l'édition papier est appelée à subsister comme produit de luxe. Et pour le monde en particulier, il y a un terrain de jeu qui doit redevenir et rester son monopole, à défaut d'être prescripteur d'opinion, être prescripteur de débat. Et je voudrais seulement terminer en m'autorisant un clin d'œil, ne serait-ce que pour sacrifier au narcissisme que pratiquent les journalistes. Je vais donc citer Alain Minc, qui a décrit un jour le rôle du directeur du Monde, du moins tel que je l'ai pratiqué. Il fait, écrivait-il, le métier le plus dur de Paris. Je cite encore Alain Minc, il a appris à traiter avec des actionnaires, à parler leur langue, sans rien céder du tropisme qui doit pousser le directeur du Monde à être l'alter ego des intellectuels. Ce n'est pas aisé de se préoccuper de cash flow et de discuter sur un pied d'égalité avec Raymond Barre ou Lionel Jospin, de vérifier la hiérarchie de l'information du jour, l'éditorial quotidien, mais aussi de sécuriser les recettes de publicité. Tenir les deux bouts de la chaîne, les comptes d'un côté, les concepts de l'autre, relève de la gageure. Ce poste-là, évidemment, n'existe plus aujourd'hui. Mais pour réussir tout cela, il fallait une collectivité de journalistes adhérant à l'identité du Monde, à savoir accompagner la modernisation de la France, accompagner la modernisation de la société française. C'est sûrement beaucoup plus difficile aujourd'hui, où il me semble que l'on respire davantage, chez certaines rédactions, un fond d'air robespierriste en phase avec la mode actuelle de l'anti-élitisme. À mes yeux, rien n'est plus dangereux que ce courant-là. Souvenons-nous toujours de ce que disait Joseph Staline après le massacre de Katyn. Pas d'élite, pas de problème. Nous vivons une curieuse époque aujourd'hui. Il y a, c'est vrai, de la part de nombre de journalistes, une véritable ivresse de leur pouvoir. Et en même temps, il fallait bien utiliser une fois cette référence, donc je redis, et en même temps, chaque fois qu'apparaît une tentation autoritaire, elle se manifeste par une tentative de contrôle ou une agression contre la presse que l'on cherche à museler. Comme si le contrôle de la presse était toujours le préalable à toute dérive autoritaire. N'en doutons pas, quels que soient ses défauts, la presse est bien la pointe avancée de l'exercice et de la défense de nos libertés. Je vous remercie.